Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Graphite 94.9 et nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre dernière émission des Échos de l'innovation. Nous sommes un groupe de 8 étudiants de l'Université de technologie de Compiègne et nous réalisons cette émission dans le cadre d'un projet en sciences et débat public sur le thème de l'innovation, d'où l'émission Les Échos de l'innovation. Notre dernière émission, celle d'aujourd'hui, portera sur l'art d'innover, ou plutôt l'innovation dans l'art. Et pendant cette émission, je serai accompagné de différents intervenants, avec Théa et Melchior. Bonjour à vous.
Bonjour David. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir un débat sur donc, l'intelligence artificielle au sein donc, de l'art. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être réellement considérée comme de l'art ?
Ok, très bien. Nous avons aussi Rémi avec nous, qui va nous parler de quoi aujourd'hui ?
Bonjour, alors moi je vous donnerai, en fin d'émission, je vous donnerai quelques pistes pour que vous puissiez un petit peu découvrir l'art par vous-même, grâce notamment au numérique.
Ok, très bien. Nous accueillons aussi Élise et Justine, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous allez nous parler d'eux ?
On va vous parler du coup du théâtre et du cinéma. Donc avec les innovations qui ont été mises en place pour restreindre la frontière entre ces deux arts.
Ok, très bien, très intéressant. Et nous allons aussi avoir un peu plus tôt dans l'émission Théa, qui va nous parler aujourd'hui de quoi ?
Bonjour à tous, alors moi je vais vous parler du thérémine, donc c'est un instrument de musique que je vais pouvoir vous faire découvrir, j'espère.
Ok, très bien, bah, parfait. Et pour, on va dire, cadrer un peu cette émission, on va se poser la question ou comment la technique, comment l'innovation, ou du moins, comment la technique est-elle en train de métamorphoser le monde de l'art ? On sait que l'innovation métamorphose notre quotidien, mais il peut aussi métamorphoser et transformer le monde de l'art. Et tout d'abord, une chronique sur l'histoire de la musique électronique. Alors, l'histoire de la musique électronique. La musique électronique, elle n'est pas sortie de nulle part dans les années 80-90, comme on pourrait le penser, ou c'est là où on a eu les premiers musiciens, les premiers artistes à faire des expériences, où ça s'est vu sur la scène internationale. Mais il faut remonter un peu plus tôt dans le temps, notamment au 19e siècle, avec l'invention du télégraphe musical, ou encore qui est le télégraphe musical qui est l'ancêtre du synthétiseur, ou encore le dynamophone, l'arc chantant. Ce sont plein de machines utilisant les fréquences, l'électricité. C'est là où l'électricité commence à apparaître et on arrive à créer des sons. On n'est pas encore sur les modèles de radio, mais c'est des outils de télécommunication, des outils d'enregistrement. On expérimente à cette période. Mais ce n'est pas encore considéré vraiment comme de la musique électronique, mais des expériences sont réalisées justement pour obtenir des sons, on teste des choses. Et un peu plus tard, où on commence à assembler ces sons, à créer un air, à créer une mélodie, on voit apparaître des drôles d'instruments comme le thérémine, et justement on va vous en parler un peu plus dans la chronique qui suit. Et par exemple, le thérémine, ça a produit de la musique sans être touché. C'est novateur, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à ce moment-là, tout évolue. Mais c'est surtout plus tard, avec la Seconde Guerre mondiale, que se développent des instruments dérivés de machines notamment de radiocommunication. Et c'est là qu'on voit apparaître les premiers instruments, réellement, les premières formes de synthétiseurs. Ça, le premier synthétiseur analogique apparaît un peu plus tard, mais c'est là où se construisent les instruments qui vont faire la musique électronique. Et se crée un mouvement, la musique concrète, qui s'est développée à l'après-guerre, pendant une vingtaine d'années. C'est un genre musical qui est permis grâce aux techniques électroacoustiques, avec justement les synthétiseurs, et ça manipule les sons. L'expérience va dépendre de l'enregistrement, comment il est fait, mais aussi des haut-parleurs. C'est plus forcément des musiques qui sont faites pour être produites en live, ou est-ce qu'elles peuvent être réellement produites en live. C'est c'est une autre façon de concevoir la musique. Et notamment, on a Pierre Schaeffer, qui est un des pionniers dans l'introduction de la technologie, justement, dans la musique, et qui a mis en place les boucles de répétition et les variations de volume, du volume sonore dans les musiques. Quelque chose qui se fait plus forcément avec des instruments acoustiques, qui se fait même sans vraiment instrument à proprement parler. Et c'est aussi la période, en 1956, où on voit naître la première bande originale, où le son est composé uniquement de sons électroniques, où c'est là où l'ère de l'électronique commence à apparaître. Et je vais vous faire écouter un petit extrait où Pierre Schaeffer et Pierre Henry composent l'opéra Orphée 53 qui a été présenté au festival de Donaueschingen et qui a fait un peu scandale parce que ça mélange justement, il y a un contraste entre l'opéra classique mais aussi des sons un peu plus improbables. On est sur les débuts vraiment sur l'expérience. Alors effectivement, c'est un peu étonnant. Il y a une impression angoissante. On va souvent la retrouver avec au début les musiques électroniques où on se cherche, on essaye de créer un univers. C'est assez particulier. Et ça a choqué et on peut comprendre pourquoi. Mais par la suite, on a pu voir d'autres morceaux avec encore Pierre-Henri justement, où là, il va mélanger par exemple le rock psyché et justement les musiques électroniques, où là, la frontière avec justement cette musique, elle est encore plus fine, où il y a encore plus d'instruments électroniques qui sont ajoutés, des sons électriques qui sont ajoutés à tout ça. Et on voit se créer au fur et à mesure justement l'apparition de ce qu'on connaît maintenant en musique électro. Mais ça commencera vraiment à apparaître avec le synthétiseur analogique dans les années 70 qui va permettre de moduler on va dire les sons sous forme de signal et ensuite on peut travailler sur ces signaux. Et ça c'est très intéressant. Et là où je voulais vous parler d'un groupe en particulier, les Kraftwerk, qui ont sorti un nombre d'albums assez impressionnant à partir des années 70 jusque dans les années 2000 avec par exemple notamment l'album Autobahn où là on essaye vraiment de se créer un univers. Autobahn ça veut dire autoroute en allemand, où ça reprend les sons qu'on va avoir sur l'autoroute, le rythme de la voiture, tout ça. Un peu plus tard ils vont sortir un autre album qui s'appelle Radioactivity. Là c'est vraiment sur le nucléaire, sur le contexte de l'époque où on est c'est encore la guerre froide, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation d'armes nucléaires. On est un peu perturbé par tout ça. Ils essayent vraiment de créer un univers autour et de faire des sons, pas uniquement pour dénoncer, mais pour ressentir l'effet de la radioactivité, tout ça. Et je vous propose d'écouter un petit extrait. Et justement, on est encore sur des rythmes assez lents. C'est le début. Ce sont les pères de la musique électronique pour beaucoup. Et ils vont s'intéresser à d'autres sujets où ils sont très tournés vers le côté industriel, vers les grandes innovations, notamment avec un album, Trans-Europe Express. C'est un album dédié à une ligne de train, de voyageurs européens de prestige, où c'est un train qui va plutôt vite, qui est novateur pour l'époque. Ils vont s'intéresser aussi en 81 avec un nouvel album à Computer World. Computer World, c'est un monde contrôlé par les systèmes informatiques, un monde obsédé par les chiffres. On va avoir un peu plus tard Electric Cave, qui est on va dire un album où ça démocratise un peu la musique électronique. Et plus tard, on ne sait pas vraiment pourquoi, Tour de France, qui parle justement du Tour de France. Et qui va parler à la fois du dopage, mais en ayant une position neutre. Mais ils s'intéressent vraiment au progrès du sport. Ils essayent de retranscrire le rythme des cyclistes, le rythme du tour, où il n'y a pas que les cyclistes qui vont faire des efforts. Tout le monde va autour. Et la musique, c'est vraiment... C'est un art total. C'est pas uniquement faire du son, faire une musique, faire un album. C'est donner une expérience aux gens. Et c'est pour ça qu'ils ont un univers qui vont influencer les plus grands, comme Daft Punk ou d'autres aux États-Unis. Ils vont enfanter les enfants de la musique électronique moderne, ou du moins ceux des années 90. Pour développer un peu plus, on peut retrouver d'autres types de musique comme la house à Chicago, qui consiste d'utiliser des samplings. Les samplings, c'est des enregistrements sonores qui sont captés et qui vont être utilisés dans d'autres morceaux. Et à partir de là, c'est là où tout s'enchaîne, où découlera l'acid house, la deep. Et les premiers DJ, un des premiers DJ à apparaître justement aux États-Unis, ce qui est loin des DJ qu'on connaît de nos jours justement, mais avec Larry Levan et le mix de la chanson Stand Underworld, que je vais justement vous faire écouter. Alors c'était un court extrait où on est encore sur la chanson originale, on ajoute un petit peu par petites touches, mais c'est pas totalement de la musique faite de toutes parts. Là, c'est vraiment DJ, c'est du mix, on part d'un original. Et la house et la techno de Détroit, c'est ce genre de musique, ça permet aux Afro-Américains de danser dans les clubs, un peu de s'émanciper, mais aussi à la communauté gay. Et c'est comme ça que tout est parti. Et c'est là où ça a réellement pris de l'ampleur. La techno réellement apparaît dans les années 80. Et là, c'est quelque chose de plus immersif, où ça reflète l'ambiance d'une ville morte comme Détroit, justement, un passé industriel ou très contrasté maintenant, beaucoup de pauvreté. Il faut retranscrire ça dans la musique. Et la techno, elle est brute. Elle est pure aussi. Elle est moins chantante. Elle contraste justement un peu avec la house de Chicago qui est fait pour les clubs. La techno se veut, comme je l'ai dit, plus immersif. Et pour finir, sur une note francophone, comment ne pas parler de Jean-Michel Jarre lorsqu'on parle de musique électronique ? Il est issu des groupes de recherche de Paris qui justement essayaient de trouver des nouveaux sons, des nouveaux instruments, qui étaient en partenariat avec des ingénieurs parfois, où c'est pas uniquement le monde musical, c'est la rencontre de l'ingénierie et du monde musical. Et il a sorti son œuvre Oxygène en 1976. Il fait partie des précurseurs, notamment en France, où cet album est composé uniquement de pistes instrumentales. Et je vous propose d'écouter la partie 1 d'Oxygène. On est sur des sons, des sonorités un peu futuristes, un peu l'espace. Il y a quelque chose où en plus, il essaye de créer un univers autour. Où pourquoi s'arrêter à la musique quand on peut faire des shows visuels, notamment en jouant de la harpe électronique avec des lasers. Il a une réelle utilisation des nouvelles technologies, à la fois justement dans la création musicale, que dans le show visuel, que dans la réalisation. Il allie les deux. La musique ne doit pas forcément être séparée. L'oreille ne doit pas être séparée des yeux. Et il va influencer les Daft Punk, qui plus tard vont reprendre les mêmes codes, que ce soit Jean-Michel Jarre ou de Kraftwerk, avec un univers robot, avec un univers technologie. Il y a un peu de tout ça. Et justement, ils se mettent en scène. Il y a un esthétique qui est proposé. Et pour arriver à la techno moderne, pour arriver à la musique électronique moderne, il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire avec la science. Et c'est ça que j'ai voulu vous raconter aujourd'hui. Et maintenant, on va pouvoir écouter Théa, qui va nous en dire un peu plus sur le thérémine, justement, un instrument que j'ai pu aborder. Mais savoir comment ça fonctionne, savoir son originalité, justement.
Oui, alors justement, aujourd'hui, je vais vous parler de cet instrument de musique qui est un peu spécial, donc le térémine. Alors pour le contexte, en fait, j'ai découvert cet instrument un jour où mon père écoutait du Jean-Michel Jarre dans le salon. Donc comme a pu vous en parler David, c'est un compositeur de musique électronique. Et en fait, à ce moment-là, je pensais écouter une belle voix d'opéra, une voix humaine, quoi. Et en fait, je me trompais complètement, car il m'a dit justement que non, c'était un instrument de musique dont j'ignorais totalement l'existence, et ça m'a fasciné. Alors du coup, aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir vous en parler. Et tout d'abord, je vous laisse écouter un petit extrait pour vous faire une première idée du son que peut faire cet instrument. Voilà, donc peut-être que comme moi, vous avez cru entendre une voix humaine. Eh bien non. Alors pour la petite histoire, le térémine est un des plus anciens instruments de musique électronique, donc inventé en 1920 par un jeune physicien russe, donc connu sous le nom de Léon Térémin. Alors son fonctionnement, cet instrument est composé d'un boîtier électronique équipé de deux antennes et a la particularité de produire de la musique sans être touché par l'instrumentaliste. Et dans sa version la plus répandue, la main droite commande la hauteur de la note en faisant varier sa distance à l'antenne verticale. Et l'antenne horizontale en forme de boucle est, elle, utilisée pour faire varier le volume selon sa distance à la main gauche. Et d'ailleurs, pour comparer son fonctionnement à une situation connue de tous, c'est un peu comme quand une personne qui se déplace dans une pièce altère la qualité d'une réception de radio ou de télévision. D'ailleurs, vous avez sûrement peut-être déjà entendu cet instrument avant, parce qu'en fait, il était souvent utilisé dans les années 50 pour créer justement des ambiances sonores dans des films de science-fiction, comme Le jour où la Terre s'arrêta en 1951. On le retrouve aussi dans certaines séries télévisées fantastiques, comme le bien connu Sixième Sens en 1972, donc notamment pour souligner certains passages d'action. Et voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui.
Eh bien, merci. Et maintenant, un peu de musique. Et je vais vous proposer, on s'est arrêté tout à l'heure, on a parlé que de musique. On a fini par les Daft Punk. Et bien, je vous propose Around the World, des Daft Punk, justement. Et vous êtes toujours sur Graphite 94.9. We'll be right back. Vous êtes sur Graphite 94.9, toujours dans l'émission Les Échos de l'innovation, avec notre sujet du jour, l'innovation dans l'art, et savoir à quel point, justement, l'innovation peut impacter le monde de l'art. Nous avons déjà abordé les sujets de la musique électronique et le théramine. Et maintenant, on va changer de domaine artistique. Et Élise et Justine vont nous parler de cinéma et de théâtre, des effets spéciaux, tout ce qui en découle. Comment ces mondes-là ont pu, innover?
Alors du coup, nous on va vous parler, comme l'a dit David, du cinéma et du théâtre et de finalement la frontière entre les deux qui commence petit à petit à, bah, à mincir, enfin à se réduire plutôt.
À
se réduire. Alors pendant longtemps, le cinéma a été le foyer de la technologie et le théâtre plutôt celui des simulations, de la simulation. Cependant, grâce à l'amélioration de la technologie de nos jours, le théâtre se numérise de plus en plus afin de le rendre accessible et plus réaliste. On peut désormais utiliser sur scène, sur une scène de théâtre, des effets jusqu'ici réservés au cinéma, voire complètement inédits, puisqu'ils s'appuient d'une part sur la technologie et d'autre part sur la nature vivante du théâtre. Son rapport au public, sa manière d'être chaque soir un peu différent. Et voilà.
Pourtant, ces deux arts sont complètement différents.
Oui, oui. Initialement, vraiment, c'est deux arts qui passent s'opposent, mais oui, c'est deux arts complètement différents.
Ouais.
Et cette révolution technologique qui touche les arts de la scène nous amène à nous demander si finalement la frontière entre le cinéma et le théâtre n'est pas en train de s'estomper. Et nous tâcherons d'y répondre par le biais d'une discussion ouverte entre nous. Voilà, voilà. Est-ce que tu veux commencer à préparer un quoi ? Oui, c'est bon. Alors, donc, on a dit que le cinéma était le lieu des effets spéciaux. Alors, d'abord, je vais vous définir un peu ce que c'est un effet spécial. Alors, du coup, les effets spéciaux, ce sont des techniques que l'on utilise au cinéma pour créer l'illusion d'action, simuler des objets, des environnements, des personnages ou des phénomènes qui n'existent pas dans la réalité et qui ne pourraient pas être filmés au moment du tournage. Et avec l'avancement de la technologie, les effets spéciaux n'ont jamais été aussi réalistes et permettent aux cinéastes d'imaginer des scènes et des situations toujours plus impressionnantes. Et on assiste de plus en plus, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le dernier Spider-Man, mais les effets spéciaux sont juste incroyables.
Ouais.
Et vraiment, ça crée des scènes qui marquent finalement et qui sont quand même très réalistes.
Et avec ces effets spéciaux, ça nous donne plus envie de regarder le film. C'est une expérience en plus. Et qu'est-ce que ça apporte réellement? Parce que si on aime déjà Spider-Man, est-ce qu'on a besoin de ces effets spéciaux?
Ça fait tout le film. Hein. Vraiment, c'est pas que le scénario est pas bien, mais alors vraiment les effets spéciaux, tu sens qu'ils ont le budget quand même, parce que c'est.
Ouais, c'est vrai que pour certains films, c'est important d'avoir de bons effets spéciaux. Après, est-ce que c'est vraiment fondamentalement important? Par exemple au théâtre, on peut bien profiter de notre séance sans avoir non plus 10 000 effets spéciaux. Après, le théâtre, il va quand même essayer de se moderniser pour rivaliser avec le cinéma. Aujourd'hui, justement, de plus en plus de metteurs en scène vont essayer d'innover dans leur manière de préparer une pièce de théâtre. Par exemple, il y a un metteur en scène qui s'appelle Oriza Hirata, qui fait jouer donc des robots humanoïdes avec ses acteurs. Donc, c'est un petit peu étonnant. C'est surprenant de mettre en place ce genre de procédé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne sais pas si j'aurais vraiment envie d'aller à une pièce de théâtre juste pour voir des robots, quoi.
Moi, je pense qu'au contraire, je serais assez curieuse de voir comment c'est rendu. Enfin, comment se marie un peu justement le monde de la robotique avec celui des humains. Enfin, comment tu peux faire une pièce de théâtre comme ça, quoi, en jouant là-dessus. Franchement, moi, ça m'intéresserait de voir ça.
Mais en fait, c'est parce que
ça sort de la réalité, non? C'est peut-être pour ça que tu n'as pas l'habitude de voir ça. Du coup, moi aussi, ça m'intéresserait d'aller voir ça. Pourquoi pas? Je trouve ça intéressant. C'est innovant, quoi.
C'est vrai que moi, je suis peut-être un petit peu trop vieille école, on va dire, dans le théâtre. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment les acteurs qui jouent leur rôle et qui vraiment vont apprendre leur texte, etc. Parce que bon, là, il n'y a pas vraiment de script, quoi. Enfin, c'est un petit peu particulier.
Mais qu'est-ce que va apporter justement le fait de faire avec des robots, forme humanoïde? Qu'est-ce que ça apporte à la pièce dans ces cas-là?
Justement,
c'est l'expérience.
Moi, justement, c'est pour ça que je vois pas l'intérêt, parce que justement, la pièce, c'était une innovation, c'était une idée comme ça de mettre des robots. Je sais pas s'ils avaient une.
Oui, je pense que c'est pour se dire qu'ils l'ont fait, quoi. Genre, c'est pour se dire qu'ils l'ont fait et que ça peut se faire. Je pense que c'est une première. Je sais pas si c'est une première, mais.
C'est une première.
Mais après, ça peut permettre de mêler aussi les différentes générations, donc entre l'ancien théâtre et peut-être pas le nouveau théâtre, mais une nouvelle forme de théâtre, de cinéma ou de théâtre, éventuellement.
Ouais, tout à fait.
Mais du coup, les robots, ils avaient appris un texte et tout, ils jouaient vraiment.
Apparemment, oui, c'était vraiment comme des acteurs, mais jouaient. Enfin, c'était des robots, quoi.
D'accord.
Mais c'était des robots acteurs.
C'est l'art du vivant, mais sans vivant.
C'est ça. C'est comme aujourd'hui, il y a des hologrammes qui sont sur scène. Par exemple, en 2014, il y a Michael Jackson qui est remonté sur scène grâce à un hologramme. Je trouve ça amusant quand même de pouvoir justement refaire vivre les morts avec des hologrammes, quoi. Les innovations, on s'arrête plus.
Mais j'ai jamais entendu parler de ce concert là. Mais ça a vraiment marché?
Apparemment, moi, d'après mes recherches, ça a bien marché. Il y a des gens qui sont venus, qui étaient contents de revoir Michael Jackson.
C'est génial.
Et du coup, c'est quoi? C'est des bandes son qui sont passées de lui, qui ont été préalablement enregistrées quand il était encore en vie, ou c'est, enfin.
Je pense
que c'est juste des musiques comme ça, et au final, c'est juste un hologramme qui était sur scène. C'était vraiment pour événement très événement. Ok.
C'est vraiment rassembler les fans autour d'un hologramme, quoi.
Il y a de la passion, mais il y a aussi peut-être une question d'argent derrière.
Oui, sûrement. Permet,
mais c'est faire remonter le roi de la pop sur scène. C'est une expérience. Non, ça peut être pas mal. C'est sympa. Et j'en avais entendu parler à l'époque, mais je sais pas à quel point ça s'est répandu ou à quel point si c'est ouvert aux frontières. Je sais pas s'il y a eu ça en France, mais c'est quelque chose d'intéressant, ça.
Il y a eu aussi une représentation là récemment assez exceptionnelle. Où en fait, d'ailleurs pas une, plusieurs, où en fait des artistes se mettent en scène, mais dans les jeux vidéo. Donc il y a eu le concert de Travis Scott là sur Fortnite. Il y en a qui utilisent, c'est vrai, hein. Il y en a qui utilisent des serveurs GTA online pour faire des concerts privés à un certain groupe de personnes à travers un personnage de jeu vidéo. Donc c'est des choses, des représentations qui commencent à évoluer de manière un peu farfelue, mais qui sont quand même assez intéressantes.
Ah ouais, c'est génial.
Oui, surtout comme tu dis, ça permet à tout le public finalement de regarder ce genre de truc. Ça mélange des jeunes, des vieux, il y en a pour tous les goûts finalement. J'ai l'impression que c'est que vraiment ça peut plaire à tout le monde, et c'est chouette, c'est vachement plus interactif, quoi.
Ouais, carrément. Et puis même, par exemple, donc toujours dans l'idée d'effets spéciaux, il y a Steele McKay qui a élaboré de nombreux mécanismes, comme par exemple une méthode de scène coulissante, un système de ventilation, il y a même plusieurs engins qui permet de produire des nuages, des vagues ou des arcs-en-ciel, donc sur scène, pendant que les acteurs y jouent. Donc, comme quoi, il y a vraiment de plus en plus d'innovations qui sont mises en place, des procédés d'infugation qui favorisent les effets pyrotechniques. Donc, je trouve ça quand même assez fou qu'au théâtre, on arrive à faire ces choses-là et que ça se rapproche de plus en plus, finalement, du cinéma. Je trouve ça.
Après, je suis pas sûre que ça se rapproche de plus en plus, parce que maintenant, le cinéma évolue aussi énormément. Les effets spéciaux, c'est plus les mêmes qu'il y a 100 ans. Maintenant, on fait vraiment des choses de qualité, très réalistes. Et les effets spéciaux, maintenant, on parle de plus en plus de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Et beaucoup pensent que ce serait sûrement l'avenir du, le futur des effets spéciaux. C'est arriver au cinéma en réalité virtuelle, quoi, ou des trucs comme ça. Ça pourrait vraiment être encore plus réaliste, finalement.
Mais est-ce que vous pensez que, d'une certaine manière, le théâtre viendrait à rivaliser le cinéma, un peu comme les lives qu'on découvre sur Internet depuis quelques années, qui se différencient aux vidéos? Est-ce que vous pensez que le théâtre va devenir le live du cinéma, ou un cinéma en live, ou...
En vrai, oui, peut-être. Après, ça dépend si dans quelle mesure, parce que c'est vrai que là, comme je disais, c'est que le cinéma évolue tout le temps, il se passe toujours de nouveaux, il y a toujours de nouvelles innovations qui sortent et qui vont révolutionner le cinéma. Je pense que ce sera la même chose pour le théâtre, mais en vrai, oui, ça peut.
Et pour le coup, oui. j'ai vu une pièce de théâtre où c'était il y a déjà quelques années, Angels in America. Et justement, ça reprenait les codes, pas forcément du cinéma directement, mais peut-être les codes de série, les codes un peu Netflix, ou une pièce qui joue en deux soirs, première partie, deuxième partie, avec un thème. Comme un peu une série où. Et surtout, c'est quelque chose d'assez long, c'est pas 30 minutes et on revient le lendemain 30 minutes, où ça prend quand même. C'est long pour une raison, parce que la pièce, en règle générale, est longue, avec un peu d'effets spéciaux. Alors là, vous avez parlé d'arc-en-ciel, tout ça, ça, j'ai jamais vu. Mais là, c'était comment faire de la neige. Bon, on n'est pas forcément dû à maîtriser les éléments, même si on arrive à le faire a priori maintenant, mais à faire tomber des balles de ping-pong sur la scène. 5000 balles de ping-pong qui tombent d'un coup. Ça reste encore, pour moi, une façon de représenter les choses, le théâtre, où j'ai du mal à visualiser un théâtre qui fait des effets spéciaux en live totalement. Je vois pas vers où ça peut mener, mais je vois qu'il y a déjà une transition qui a été faite assez sympa, où le but c'est de capter un nouveau public, capter les jeunes, faire vivre une expérience autre que juste une performance d'acteur.
C'est vrai que c'est différent quand même quelque part de faire des effets spéciaux, je trouve, au théâtre ou au cinéma, parce qu'au cinéma il y a du traitement d'image, etc. Enfin, c'est vraiment l'image qui est le support. Tandis que même si on rediffuse la pièce de théâtre, ce sera on va pas remodifier la pièce, on va vraiment filmer la scène qui va se produire, avec peut-être des effets spéciaux qui vont être faits, mais sur scène. Donc c'est vrai que les effets spéciaux, ils sont à un endroit différent. Donc je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi ça permet quand même de rendre le théâtre plus vivant et plus pour moi, ça se rapproche de plus en plus, ouais,
L'acteur ne va plus suffire pour divertir ou pour exposer quelque chose. On utilise tout ce qu'on a en notre possession pour faire vivre un moment agréable au spectateur. Ouais, je peux comprendre. Et moi, ça m'avait plu, mais je sais pas où est situé, jusqu'où on peut aller là-dedans. Et justement, on parlait de, est-ce que ça va être un live du cinéma? Est-ce que ça va être à peu près la même chose? Ça, c'est des questions intéressantes.
En vrai, j'aime bien l'appellation le live du cinéma. Je trouve que c'est assez original comme concept. Mais surtout, après, moi, qui m'inquiète, mais je me dis, si on arrive à vraiment introduire les effets spéciaux dans le théâtre, est-ce que ça dénaturerait pas un petit peu le théâtre de base, donc avec les acteurs qui vraiment jouent leurs pièces? Et souvent, quand on va voir une pièce de théâtre, c'est pour voir des acteurs qui sont bons, qui jouent entre eux. Même la plupart des pièces, à l'époque, il y avait très peu de décors, finalement. Et on venait vraiment juste pour voir l'acteur, le texte, l'aménagement de l'espace. Enfin, c'était ça, initialement. Donc, est-ce que le fait d'introduire des effets spéciaux et beaucoup plus de décors, de superflu, finalement, ça dénaturerait pas un peu ça?
Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, ce qui me poserait vraiment problème avec ce genre de nouveautés, d'innovation, c'est qu'en fait, on nous laisse plus forcément imaginer, on nous laisse plus forcément rêver, en fait. Quand on allait au théâtre, tout le monde pouvait avoir sa propre... même s'il y avait un script, même s'il y avait une histoire, tout le monde pouvait avoir un peu sa propre interprétation, sa propre perception des choses. Et là, j'ai l'impression qu'on nous guide toujours un peu plus et qu'on nous met un petit peu des barrières intellectuelles et on essaye un peu de... C'est plus nous qui décidons d'où on veut aller quand on va voir ce genre de choses, quoi.
Moi, je suis pas forcément d'accord, parce que même, par exemple, tu vois, dans les films, le fait de rajouter des effets spéciaux, ça va pas forcément te guider vers ça veut dire de dire des idées ou de te faire plus rêver, t'as dit, c'est ça, enfin... Mm-hmm. Bah, pour moi, ça, rajouter des effets spéciaux, justement, ça peut justement amener un petit truc en plus, je pense.
Oui, par exemple, quand tu regardes sur des films, des bons films d'auteur qui sont primés, etc., souvent des films avec assez peu d'effets spéciaux où on laisse plus place à l'acting, où on laisse plus place aux sentiments, aux perceptions et pas juste au visuel, en fait.
C'est pas faux, ouais, c'est comme dans les livres en soi, quand tu lis, t'es moins influencé et t'as plus l'occasion de rire. Ok, ouais, je comprends.
Et il y a aussi un aspect économique où, par exemple, les films avec les meilleurs effets spéciaux, bah, c'est souvent les grands films hollywoodiens, gros budget, tout ça, où c'est beau, mais il y a des besoins financiers. Si le théâtre se transforme, où justement, quelquefois, on va voir des pièces de théâtre, on est 20, la salle est complète, c'est tout petit, il y a une fontaine en carton au milieu, des déguisements assez classiques où on va vraiment voir un moment de théâtre. Et là, c'est, si tout se transforme en série Netflix, bah, est-ce qu'on perd pas quelque chose? Justement, c'est de ce point de vue-là où ça va, on va avoir une meilleure représentation, peut-être, ou du moins plus de show, c'est plus visuel, ouais. mais on perd quelque chose.
Après, je pense que c'est très limité, les effets spéciaux dans le théâtre. Je ne pense pas qu'on pourra faire un...
Bah, vraiment, de plus en plus, hein. ça s'intensifie. Mais c'est vrai que ce que tu disais, du coup, David, ça amène un de nos autres points. C'est, est-ce que le plus important, du coup, au théâtre, ce serait pas plutôt le contact, en fait, avec le public? Parce que c'est vrai que la plupart du temps, enfin, en tout cas, moi, quand je vais voir une pièce de théâtre, c'est pour avoir du contact avec les gens. Je suis allée voir une pièce de théâtre qui était vachement bien, où bah, c'était que de l'impro. T'avais deux acteurs sur scène et c'était le public qui leur donnait les thèmes et ils devaient faire avec, en fait. Et cette interaction entre entre le public et les acteurs, j'ai trouvé ça tellement plus intéressant que d'aller voir un film au cinéma. Après, c'est personnel. Mais c'est vrai que du coup, peut-être qu'avec tous ces effets spéciaux, on perdrait peut-être ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Après, moi, je pense que de toute façon, quand tu vas au théâtre et quand tu vas au cinéma, tu n'y vas pas pour les mêmes raisons, pour chercher les mêmes choses. Le cinéma, c'est plus, tu passes un bon moment aussi au théâtre, mais dis donc que t'es posé, tu regardes un film, et je pense que ça détend un peu, tu ne cherches pas forcément une interaction, je pense que tu peux vraiment juste chercher la qualité du film, la qualité des effets spéciaux. Vraiment, tu peux juger de ça, tu vois. Au théâtre, c'est vrai que t'es plus avec, du coup, l'homme en face de toi qui joue, quoi. Donc, c'est vrai que tu cherches pas les mêmes choses quand tu vas regarder un film ou quand tu vas au théâtre. Mais par contre, pour rebondir là-dessus, le cinéma devient de plus en plus, justement, immersif. C'est que maintenant, il y a eu la 3D, donc ça, on connaît, avec les images qui ressortent, donc... Voilà. Et maintenant, même, ils sont en train de travailler sur du cinéma 3D, mais sans lunettes 3D. C'est qu'on aurait l'image qui ressortirait, mais sans nous faire nous embêter avec des lunettes, des lunettes pendant toute la séance. Donc, voilà. Et maintenant, on parle aussi de 4DX. Ouais. De la 4DX. Donc, maintenant, c'est encore plus abouti que la 3D. Et ça joue, en fait, sur les sensations, puisqu'elle intègre des odeurs, des effets et... les effets et les fauteuils bougent en même temps que le film continue, enfin avance.
Un peu comme au Futuroscope, Arthur et les Minimoys, c'est 4D, 5D, je sais plus, mais
ouais, c'est ça.
C'est ça,
ce que là, ce serait sur un film,
un long métrage.
Un long métrage, ouais.
Voir un bon Far West avec les fauteuils qui bougent.
Oui, ça pourrait être très très drôle. Donc voilà, et je pense que ça, c'est aussi une révolution dans le cinéma, c'est parce que maintenant, on se sent carrément dans le film. C'est qu'on ne regarde plus un film, on a l'impression qu'on est acteur du film. Donc ça change vraiment la donne, quand même.
Maintenant, au théâtre, on pourrait faire le reproche comme quoi le théâtre, le son, il n'est pas forcément de très bonne qualité, ou alors la manière de regarder... qu'on n'a pas de nouvelles manières de regarder le théâtre qui serait peut-être plus intéressante. Mais par exemple, en 2018, au théâtre de l'Odéon, on présentait The Encounter. Désolée pour mon accent. C'est un spectacle, du coup, qui a été créé par Simon McBurney et qui repose sur un dispositif innovant. Donc, chaque spectateur portait un casque audio qui lui permettait de suivre le spectacle. Et le casque, en fait, il diffusait un son binaural. Donc, alors, je sais expliquer un peu. Un type, donc c'est un type de son qui permet de tromper les perceptions de notre cerveau et qui donne l'illusion d'envoyer séparément du son dans les oreilles des auditeurs. Ce qui permettait en fait de créer un lien entre les spectateurs et Simon McBurney, qui était le seul acteur sur scène. Voilà, donc il y a de nouvelles innovations aussi de ce point de vue-là.
Ok, c'est énorme. Franchement, ça doit être hyper troublant.
Je pense ça doit perturber un peu, où il y a un décalage entre tes sens, ils sont faits pour être ensemble, et là, la séparation, non, mais comme quoi, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas, et bon, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, à essayer, j'ai envie de dire à essayer.
Ouais, c'est ça, je pense que c'est une expérience
moi aussi,
vraiment,
ça m'intrigue.
C'est ça. Donc, est-ce qu'on...
Merci pour ce moment de théâtre et de cinéma. Mais on a commencé sur la musique. Retournons justement sur la musique avec la chanson d'Adiscar. Vous êtes sur Graphite 94.9 et maintenant Melchior et Théa vont nous parler de l'intelligence artificielle dans l'art.
Oui, donc comme vous avez pu l'entendre, cette musique, est-ce que d'abord vous avez reconnu le nom de l'artiste de cette musique ou un genre qui ressemblait à quelqu'un en particulier ou non?
Non. Non, bon. Moi, j'ai pas reconnu.
En fait, il se trouve que cette musique a été entièrement créée par donc une intelligence artificielle. Donc le nom de l'artiste, on peut le dire comme ça, se nomme donc Flow Machine. Et donc la musique donc d'Addy Scars, qui est totalement qui s'inspire donc des musiques des Beatles. Alors donc pour rebondir, nous allons donc parler d'intelligence artificielle donc dans cette partie avec Melchior. On va notamment parler donc des différents types d'art qui sont réalisés donc par enfin dans lesquels s'implante l'intelligence artificielle. Donc on a pu parler donc beaucoup de musique dans ce début d'émission, donc on va continuer à parler de la musique. C'était donc notamment depuis de nombreuses années, les mathématiques occupent une place assez importante dans la musique, et c'est pour dire que dès les années donc 1600-1700, donc à la période où Jean-Sébastien Bach expose tout son talent, ce dernier utilisait donc des méthodes mathématiques et géométriques afin de composer ses musiques, tout comme a pu faire également donc Mozart et sa génération donc de pièces musicales par recombinaison de fragments tirés au sort avec des dés. Cette technique, ça se nomme du coup les musicalisches Wurfspiel, qui signifie donc en français jeu de dés musicaux. Donc c'est un système par lequel on génère de la musique à partir de jets de dés. Du coup, c'est dire que l'on utilisait déjà donc des différentes techniques qui incluaient donc que ce soit des mathématiques ou encore donc mathématiques et géométriques pour créer donc de nouvelles compositions. Et de nos jours, ça a en effet beaucoup évolué, avec cette fois-ci donc une intelligence qui crée elle-même donc à partir donc de différentes bases de données qui sont déjà existantes, donc comme la musique qu'on vient d'entendre, qui s'inspire énormément donc des Beatles. Et donc on peut créer donc aussi donc de nouvelles musiques et qui au final sont aussi liées aux mathématiques. Donc cette petite partie, c'était pour mettre en lien donc les différentes générations qui au final cherchent toutes deux à concevoir et créer donc de nouvelles musiques en lien avec les mathématiques.
Alors maintenant, je vais vous donner deux petits exemples. Le premier, c'est que la 8e de symphonie de Schubert est enfin terminée et elle a été finie par une IA. Donc voilà, donc c'est ce morceau qui n'a pas été fini depuis 1822, qui a été fini par les technologies d'informatique de la firme chinoise Huawei. Donc ça, c'est le premier petit exemple de l'utilisation de l'IA dans la musique. Et le second, c'est, je pense que vous connaissez tous et toutes, Travis Scott. Mais est-ce que vous connaissez Travis Bott ? Travis Bott, c'est un artiste complètement fictif. Hein. C'est une IA, en fait, qui a recréé une musique, du style de Travis Scott, un peu comme la musique que nous avons entendue tout à l'heure d'Addy Scars. Et donc l'IA commence à avoir un réel impact sur la scène musicale dans le monde entier.
Juste pour rebondir, je trouve que c'est assez intéressant ton premier exemple, parce que au final, ça aurait pu rester un mythe que cette 8e symphonie ne puisse pas se finir, et au final, ça a été fait. Est-ce que du coup, c'est vraiment ce que Schubert aurait voulu ou non ? Ça, on pourra jamais le savoir du coup. Mais est-ce que les gens vont justement l'écouter, ou est-ce que tu sais ce qui s'ensuit ?
Alors moi, je pense que l'intention est bonne. Je trouve que c'est quand même plutôt assez sympa ce mythe, on a tous imaginé, enfin tous, tous les grands mélomanes ont imaginé la suite de cette 8e symphonie. Et je trouve ça assez beau et symbolique de dire, on a proposé le projet à une IA qui est censé faire les choses mieux que l'homme, en tout cas sur des points très précis. Voilà une de nos propositions. Est-ce qu'elle conviendra à tout le monde ? Oui ou non, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, le ton a été donné. Et je trouve que c'est une belle symbolique de dire, elle est enfin terminée. Aujourd'hui, les choses sont finies.
Après, dire que c'est... que l'œuvre est terminée et que c'est l'œuvre de Schubert, c'est ça qui me gêne. C'est qu'en fait, c'est plus un complément d'œuvre où, en soi, on a réussi à faire ce qui correspond le plus à Schubert, mais c'est pas Schubert. Du coup, Je sais pas, c'est...
Est-ce que ça lui donne la même valeur, du coup, enfin, que ses autres œuvres? Est-ce que c'est la 8e symphonie de Schubert, vraiment?
Ou est-ce qu'on ne se prend pas tout simplement pour des dieux en se disant, bah, une œuvre, elle est figée? Ah bah non, on peut continuer, en fait. Elle n'est jamais figée et on peut la terminer, mais sans la personne qui l'a commencée, sans la personne dont c'est le nom.
Au final, on pourrait dire que c'est comme si elle était co-composée par donc, l'intelligence artificielle et Schubert, si c'était le terme exact. C'est ce que vous entendez par là?
Ouais, c'est ça.
C'est vrai que ça peut paraître assez prétentieux de dire bah, on a fini cette 8e symphonie. Je suis d'accord avec vous, mais c'est vraiment un petit détail assez sympathique. On a réussi, entre guillemets, à finir cette 8e symphonie.
Et c'est quoi? Ils se sont genre. Ils ont réutilisé du coup ce qu'avait fait Schubert avant et ils l'ont amélioré.
C'est ça, ouais, ils ont implémenté son travail. Et donc ça a permis de finir cette 8e symphonie le plus proche possible hein, de la réalité.
D'accord, ok.
Du coup, j'aimerais juste aborder le thème, enfin du coup notre question principale est est-ce que l'intelligence artificielle, elle peut réaliser bah, des œuvres qu'on peut classifier comme œuvres d'art? Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Par exemple, pour ma part, je pense que l'intelligence artificielle, elle est plutôt utilisée comme un outil pour mettre en œuvre, pour retranscrire l'art qui existe ou peut exister déjà ou n'existe pas encore. Par exemple, on la retrouve aussi dans le domaine de la peinture, et notamment sous forme de GANs, donc ça veut dire c'est des Generative Adversarial Networks, ce qui signifie en français donc les réseaux adverses génératifs, qui sont une sorte d'algorithmes qui ont été inventés en très peu de temps, en 2014, par Ian Goodfellow. Et en fait, ils permettent de générer donc des images avec un fort degré de réalisme. Et au final, il y a un collectif, si ça vous intéresse, français, qui s'appelle Obvious, qui justement utilise ces GANs. Et quand on regarde leurs œuvres, donc si on peut appeler ça donc des œuvres qui sont réalisées par des intelligences artificielles, au final, il y a des fois, on trouve que, bah, par exemple, une photo, on peut penser que c'est une photo qui a été prise en vrai, donc dans la réalité, alors que en fait, pas du tout. C'est des retranscriptions d'images qui ont été superposées ou des pixels, tu vois, superposés en fonction de d'autres images pour créer une nouvelle image. Et je trouve ça assez fou. Bon, après, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas du tout réalistes aussi. Hein. Mais du coup, je voulais donc revenir sur la question principale qui est, est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle, ce qu'elle crée, ce qu'elle produit, ça peut être une œuvre d'art? Ou est-ce que c'est de l'art, en fait? Ou est-ce que c'est la personne qui est derrière, par exemple, la création de cette IA, donc cette intelligence artificielle, c'est elle la créatrice ou le créateur de cet art? Est-ce que c'est assez clair ou...
Ah, tout dépend comment fonctionne l'intelligence artificielle, si elle apprend par elle-même, parce que si c'est une ligne de code ou c'est une intelligence artificielle basique, c'est du code, c'est quelque chose derrière qui crée, si elle va apprendre, si c'est avec du deep learning, quelque chose comme ça. Il y a toujours un côté où ce sont des arts réalisés par la sensibilité humaine, où la machine peut recréer une sensibilité. En fait, c'est quand on cherche à faire de l'art à partir d'une intelligence, c'est qu'on essaye de recréer cette intelligence à notre image. Mais elle va jamais, pour moi, être à notre image. Du coup, je suis partagé.
En vrai, pour moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est le résultat. Je pense pas que je m'intéresserais vraiment. Bon, c'est vrai que c'est mieux quand c'est un humain qui crée, c'est plus beau, c'est plus fort, du coup, d'où œuvre d'art.
Ça a plus de sens.
Voilà, peut-être. Mais moi personnellement, genre, ça me dérangerait pas. Tant que le résultat est bien, ou par exemple que c'est dansant, si c'est de musique, moi ça me va, quoi.
Oui, donc il faut qu'il y ait de l'émotion derrière, c'est ça? Est-ce qu'une, par exemple, une IA peut arriver à transcrire pour toi de l'émotion dans une peinture ou
dans une peinture
ou non, même dans la création d'une musique ou après souvent c'est des là comme on a écouté la musique précédente, ça s'adapte, enfin ça reprend déjà ce qui a été inventé, donc en soi
Personnellement là, par exemple dans la musique qu'on a écoutée, j'ai pas ressenti que c'était fait par un IA, quoi. Donc moi ça me dérange pas.
Moi pour le coup, je pense qu'on doit par contre vraiment créditer les ingénieurs ou les personnes qui sont derrière l'IA, parce que c'est d'accord, c'est une nouvelle forme d'art, mais c'est vraiment grâce à eux que ça existe. Le boulot, il est tout aussi compliqué. L'idée, elle vient aussi. Et c'est, pour moi, c'est vraiment une nouvelle forme d'art. Et on ne peut pas juste dire que c'est fait par l'IA. Il faut dire par qui c'est fait, par les ingénieurs, etc. etc.
Mais il y a quand même une différenciation, donc.
Oui, pour moi, c'est vraiment une autre forme d'art.
Oui, donc okay. Une co-création, en fait, au final.
Et c'est... ça dépend aussi de la définition qu'on donne à l'art aussi, du coup. Peut-être revoir notre définition de l'art, je ne sais pas.
Et du coup, est-ce que, donc la question, est-ce que c'est un outil ou c'est quand même quelque chose d'à part, enfin, est-ce que c'est grâce à, enfin, est-ce que c'est qu'un outil, l'IA, ou...
Ouais, pour moi, l'IA, c'est un outil, c'est comme un pinceau, ou comme, c'est vraiment, ça permet, les ingénieurs qui pouvaient jusqu'alors être difficilement artistes, sauf par exemple quand on faisait de l'horlogerie ou des choses comme ça, ça permet, avec de nouveaux outils, de s'exprimer et de créer par soi-même. Et pour moi, c'est une nouvelle forme d'art avec des nouvelles formes d'artistes.
Il y a forcément une intelligence humaine derrière. Ça ne se fait pas tout seul, quoi.
Très bien. Tu veux dire...
Alors oui, maintenant, je vais vous parler un peu d'autres types d'art, en fait, que l'IA utilise, où l'IA a une implication. On peut parler un peu de sculpture où, en fait, toute l'œuvre est intégralement tournée sur le robot, avec, en fait, une sculpture un peu vivante. On peut aussi parler de cinéma avec... où, en fait, l'IA sera juste un outil, un peu un pinceau, comme vous avez dit. Mais aussi, on peut parler d'œuvres entièrement réalisées par l'IA, comme dans l'art de l'écriture, où en fait il y a un livre entier qui a été créé par l'IA en totale autonomie et s'appelle The Road, et donc c'est un livre donc qui a été écrit par l'IA d'une voiture qui fait un voyage entre New York et la Nouvelle-Orléans. Donc si jamais vous voulez le lire.
Et c'est vraiment passionnant, enfin, c'est intéressant ou...
Alors je l'ai personnellement, ouais. Je l'ai pas lu, mais vous pouvez vous amuser à regarder cet ouvrage.
Eh ben, merci pour cette petite présentation de l'IA. Et pour terminer cette émission, Rémi va nous parler de quelques petites sorties à faire et des expériences qui peuvent être un peu nouvelles quand on va visiter, par exemple, un musée ou autre.
Alors effectivement, mon objectif, c'était un peu de vous donner des pistes sur comment mettre en place cette nouvelle... comment pouvoir s'épanouir malgré la crise du Covid, etc. etc. Le problème de temps m'empêche de trop vous en parler, mais je vous conseille par exemple de vous rendre sur la plateforme Google Art and Culture, qui propose pas mal de vidéos et de photos, qui permet de visiter des différents musées, comme le MoMA ou le Met à New York, etc. etc. Et donc je vous conseille vraiment de vous pencher sur cette nouvelle forme de visite, qui est la visite virtuelle qui est proposée par pas mal de musées. Et voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus pour le moment.
Effectivement, l'émission touche à sa fin. On a quelques idées justement pour pouvoir sortir et découvrir les musées quelquefois qui ne sont pas forcément accessibles. Et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On ne se retrouvera pas pour une prochaine émission. C'était notre dernière des Échos de l'innovation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.